Et l'invité de France Inter jusqu'à 9h est garde des Sceaux, ministre de la Justice, Nicole Belloubet, bonjour.
Bonjour.
La pression retombe d'un cran dans les prisons, même si les gardiens restent mobilisés, même si le mouvement qu'ils ont initié un peu partout en France est encore puissant. Avant d'entrer dans les détails, qu'est-ce qui explique selon vous cette colère, le sentiment d'avoir été abandonné, le sentiment de manquer de moyens? Comment diriez-vous les choses ?
Je dirais que les surveillants des établissements pénitentiaires vivent une situation très difficile. Leur métier est difficile. D'abord, c'est un métier qui est au contact avec l'enfermement, avec la détresse, avec la violence parfois. Et donc, il suffit d'un acte d'une violence extrême, comme celui qui s'est passé à Vendin-le-Vieil, pour déclencher la colère qui se manifeste aujourd'hui.
Mais ils étaient déjà à fleur de peau, les gardiens de prison, bas bruit, avant que cet événement ne déclenche les choses?
Si vous voulez, c'est une situation dont je me préoccupe depuis que j'ai été nommée garde des Sceaux, encore une fois parce que je connais la difficulté de leur métier. Et ce ne sont pas que des mots. Je me rends souvent dans des établissements pénitentiaires. Je parle avec notamment les surveillants, mais pas seulement. Il y a également d'autres personnels. Et je mesure vraiment la difficulté du travail qu'ils font.
Faut-il aujourd'hui quelque chose comme un plan prison, Nicole Belloubet?
Alors, le président de la République l'a annoncé et, en toute hypothèse, l'a fait également partie des chantiers de la justice que j'ai lancés. Alors, plan prison, ça recouvre plusieurs facettes d'une même réalité, puisque cela signifie à la fois qu'il faut construire des places supplémentaires pour répondre à cet objectif d'encellulement individuel qui est une condition de dignité, mais aussi de sécurité pour la société, évidemment. Cela veut dire également qu'il faut travailler sur ce qu'est la peine. C'est l'objet des chantiers de la justice que je porte, c'est-à-dire au fond qu'on ait une hiérarchie clarifiée des peines, qu'on puisse utiliser différents types de peines qui soient adaptées, qui soient une réponse pénale pertinente pour la personne qui a été condamnée. Et puis, cela signifie enfin qu'il faut réellement travailler sur la situation des personnels qui travaillent dans les établissements pénitentiaires.
Nicole Belloubet, est-ce que les 10 propositions faites à Vendin-le-Vieil, où vous vous trouviez donc hier, peuvent être généralisées à l'ensemble des prisons ou sont-elles uniquement destinées à celles-là?
Non, elles sont clairement, je me suis rendue à Vendin-le-Vieil pour d'abord apporter mon soutien au personnel qui avait été blessé, pour prendre en compte la situation singulière de cet établissement, d'ailleurs qui accueille vraiment des détenus difficiles, et pour répondre à une situation particulière. Donc les 10 mesures pour Vendin...
N'ont pas vocation à être généralisées.
Non, en tout cas, certaines d'entre elles peuvent l'être, si vous voulez. Je pense par exemple à des questions autour des équipements de protection, de sécurité pour les personnels qui sont au contact avec les détenus les plus violents. Ces choses-là peuvent être généralisées, mais toutes n'ont pas à l'être. J'ai notamment évoqué la question du projet de l'établissement pénitentiaire de Vendin, mais il est propre à Vendin.
Bien sûr. Allez-vous réformer, parce que tout est parti de là, les modalités d'enfermement, d'emprisonnement des détenus radicalisés?
Alors d'abord, je dois dire que nous avons actuellement une politique qui est très pensée sur ce sujet. C'est pas n'importe quoi, n'importe où. Donc nous avons, lorsqu'un détenu radicalisé, lorsqu'une personne a été condamnée pour terrorisme, il est d'une part évalué pendant 4 mois dans un quartier d'évaluation où nous mesurons sa dangerosité. Et à partir de là, il est placé dans des situations différentes. Il peut être placé soit à l'isolement, où là, par définition, il est séparé des autres. Il peut être placé dans des quartiers pour détenus violents, pour détenus radicalisés, où là encore, il fait l'objet d'une prise en charge particulière et séparé des autres. Et certains sont placés en détention ordinaire et suivis de manière particulière.
Mais il faut élargir, et vers quoi cette gamme que vous venez de décrire?
Alors, je pense qu'on peut toujours revisiter, faire mieux, mais là, pour l'instant, notre objectif, c'est de multiplier ce type de quartier singulier, c'est-à-dire à la fois les quartiers d'évaluation de la radicalisation, les quartiers pour détenus radicalisés que nous allons multiplier sur l'ensemble des... Non, pas sur l'ensemble, sur un nombre plus important d'établissements pénitentiaires.
Et sur le plan théorique, est-ce que vous croyez à la déradicalisation, à l'idée même de déradicaliser quelqu'un ?
Je n'aime pas le terme.
Possible ?
Oui, je crois que c'est possible. Tout dépend du niveau d'engagement dans la violence de ces personnes. Mais j'ai vu des expériences conduites à la fois par les personnels d'insertion et de probation ou par des associations privées qui, avec un accompagnement très soutenu d'un certain nombre de personnes, les ramènent dans un rapport normal à la société. Oui, je crois que c'est possible, sans doute pas pour tous les détenus. Il faut être réaliste.
Nicole Belloubet, vous étiez à Calais avec le président de la République hier. Une tribune d'intellectuels dont certains sont proches d'Emmanuel Macron a durement critiqué la politique d'asile qui se dessine en France. Est-elle, comme ils l'écrivent ces intellectuels, en contradiction avec l'humanisme élémentaire dont la France doit, selon eux, mettre en œuvre ?
Je ne le crois pas, je ne le veux pas et je ne le pense pas. Il me semble que ce que cherche le gouvernement d'Édouard Philippe et le président Macron, c'est de conduire une politique équilibrée. C'est un terme qui est souvent repris, mais je le reprends à mon compte. Au fond, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une politique d'accueil qui soit maîtrisée. Maîtriser, ça veut dire à la fois un accueil qui est inconditionnel dans les centres d'hébergement d'urgence, un accueil en termes de soins qui également relève de l'inconditionnalité, mais un accueil qui, à un moment donné, puisse offrir des chances de traitement des personnes qui arrivent sur le territoire français, des traitements de leurs demandes selon la qualité à laquelle il veut prétendre. Est-ce que c'est de la demande d'asile ? Est-ce que... ce sont des réfugiés que nous devrions héberger au titre des réfugiés. Est-ce que ce sont des gens qui doivent faire l'objet d'une politique de retour avec une aide au retour ? Il y a plusieurs catégories et je pense que nous sommes dans cet accueil-là, un accueil maîtrisé. Et c'est ce qui est important. Je crois qu'il faut que nous mettions tout en œuvre pour qu'il y ait une intégration réussie. Ce sont les deux aspects.
En tout cas, associations et ONG se retrouvent pour violemment critiquer l'idée de faire intervenir des équipes mobiles dans les centres d'hébergement. Est-ce qu'il ne faudrait pas abandonner cette idée, cette disposition ? Parce que associations et ONG, dit cette tribune, font un travail irremplaçable sur ces sujets.
Mais c'est vrai. C'est vrai qu'elles font un travail irremplaçable. Je crois que ce qui a été voulu, c'est d'éviter à ces personnes qui sont dans des centres de faire des queues invraisemblables, d'avoir des rendez-vous à des dates très éloignées. Au fond, c'est devant les préfectures, nous avons tous vu ces choses-là. Et donc l'idée était de faire venir des personnels administratifs dans ces centres pour essayer de mieux répondre à des questions d'orientation. Alors si cela a été mal compris, il faut certainement que nous l'expliquions, que nous travaillions avec les associations pour leur expliquer que, au fond, c'est aussi une exigence de dignité. En tout cas, c'est comme cela que ça a été entendu, que nous souhaitons déployer.
Donc, vous soutenez cette circulaire Collomb ?
Je pense que si elle est expliquée de la manière dont je viens de le dire, c'est-à-dire, au fond, l'idée d'aller au-devant des gens pour leur éviter... des démarches qui sont des démarches parfois indignes dans la manière dont elles étaient conduites. Oui, je crois que c'est...
Donc vous dites accompagnement aux formalités administratives.
Absolument.
Et non pas tri des personnes.
Je réfute totalement ce terme. Je pense que ce n'est pas du tout ce qui a été voulu. Et si ça l'était, ce serait dramatique. Ça ne peut pas en aucun cas être un tri. Et dire que ça l'est, je crois que c'est se méprendre vraiment profondément sur le sens de ce qui a été voulu.
Votre ministère est-il parvenu à un accord fin décembre sur le dossier du rapprochement des détenus basques vers les prisons de leur région d'origine ?
Un accord avec qui ?
Basque, oui, j'ai bien dit basque. C'est
Basque.
Quotidien Sud-Ouest qui indique que les transferts de prisonniers vers les prisons de Mont-de-Marsan et Lannemezan seraient réalisés dans les prochaines semaines, selon Jean-Noël Etcheverry.
Si vous voulez, c'est une situation que nous prenons en compte, que nous traitons. Nous la traitons de manière extrêmement fine. Il nous a été fait le reproche d'être, je dirais, inactifs sur ce sujet. Je ferai ici observer que c'est mon ministère en ce moment, qui a levé le statut de DPS, de détenu particulièrement signalé, d'un certain nombre de détenus, qui permet le rapprochement. Et donc maintenant, nous travaillons au cas par cas sur des demandes de rapprochement qui sont effectuées par les prisonniers.
Mais donc il y a bien un cadre sur les prisonniers basques.
Pour la première fois, il y a un cadre qui est clair et sur lequel nous pouvons agir.
Ce qui est valable pour les Basques, va-t-il être valable pour les Corses ?
Pour la situation des détenus corses, nous travaillerons de la même manière, selon les règles de droit commun. C'est-à-dire,
donc ce n'est pas un refus de principe ?
Je le dis
ni
ici,
un accord de principe ?
Absolument. Nous travaillerons selon les règles du droit commun.
Le président de Radio France, Mathieu Gallet, a été condamné hier, Nicole Belloubet, à 1 an de prison avec sursis et à une amende de 20 000 euros pour favoritisme. Ses avocats ont fait appel. Doit-il démissionner, d'après vous, alors qu'en droit, l'appel est suspensif ?
Alors, il y a une question d'éthique personnelle qu'il lui appartiendra de prendre en compte, mais effectivement, l'appel est suspensif. Donc, je ne prononcerai pas sur ces affaires judiciaires.
Est-ce que l'éthique personnelle est une valeur supérieure au droit ? Je vous pose cette question à vous, ministre de la Justice et juriste.
Ça n'est pas une valeur supérieure au droit, car dans un état de droit, il n'y a rien de supérieur à la règle de droit. Mais c'est un comportement personnel qui, me semble-t-il, doit accompagner la règle de droit.
Nicole Belloubet au micro de France Inter. On vous retrouve avec Léa Salamé, avec les auditeurs, juste après la revue de presse de Claude Ascolovitch.